prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, voir autrement.
Voilà, bonjour à tous. Alors, on va ouvrir notre Bible et j'aimerais que nous prenions en considération une pensée particulière qui se trouve finalement dans la Bible. Et si je dois donner un titre à notre méditation, je vous donnerai ce titre, là, un petit peu particulier, hein. Mais façon de voir, tout simplement, façon de voir les choses, façon de voir les hommes. Et Jésus nous donne une grande instruction sur la manière de regarder, de voir, et puis d'appréhender ce qui se passe. Bien des choses dans ce contexte. Alors, nous allons donc prendre d'abord une première lecture. Hein, c'est elle qui va un petit peu servir de fil rouge. Donc, livre des Proverbes, chapitre 22.
On baisse un peu le micro.
Voilà. Donc, Proverbes, chapitre 22, et nous ferons simplement une partie d'un verset. Écoutez bien, ça rentre tout à fait dans ce que nous voulons faire. Proverbes 22, verset 9, « L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. » L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Ou comment voyons-nous les choses? Mieux encore, comment voyons-nous les gens? Comment voyons-nous nos frères et nos sœurs? Comment voyons-nous les autres? Et avec quels yeux? Alors je sais qu'il y a des porteurs de verres correcteurs hein, au milieu de nous. Alors ça n'a pas passé par ce truchement-là. Mais la manière dont nous regardons. J'aimerais que tout au long de notre méditation, nous allons prendre trois exemples de réflexion. Je vais vous parler d'abord du regard de la confiance. C'est important, hein, la confiance ou le regard confiant. Et pour ce faire, nous allons donc lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres qui nous enseigne sur le sujet. Actes chapitre 9, versets 23 à 27, on peut lire cela comme ça, mais il y aura un verset particulier qui va cristalliser notre pensée. Voilà, Actes chapitre 9, versets 23 à 27. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Alors il s'agit de Paul, hein, le pauvre. Et leur complot parvint à la connaissance de Saül, c'est Paul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et le raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement le nom de Jésus. Ils allaient et venaient avec eux dans Jérusalem et s'exprimaient en toute assurance au nom du Seigneur. Il y a un verset que j'aimerais particulièrement surligner quand il est dit ceci, « Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. » Voilà l'objet de notre réflexion. Le contexte, je le rappelle, Paul, qui deviendra Paul, l'apôtre Paul, grand homme de la Bible, se nommait auparavant, Saul de Tarse. Et je crois que même déjà dans son nom de Paul, Paul en grec, ça veut dire petit. Alors lui qui se croyait très grand auparavant quand il s'appelait Saul de Tarse, il a dû descendre de son cheval et se retrouver par terre. Et là, véritablement, son nom lui est tout à fait approprié. Alors il se convertit. Inimaginable qu'un homme comme Saul de Tarse, on n'aurait jamais certainement fait un pari sur sa conversion. Et nous apercevons que d'ennemi irréductible, il devient un ami de Christ, un ami de Jésus, et puis finalement de tous ceux qui vont épouser de cœur la nouvelle foi. Alors à ce moment-là, immédiatement, une conspiration se forme pour éliminer Paul, pour le mettre hors service, hors circuit. Parce que, aux yeux de tous ces corréligionnaires, ex-corréligionnaires, c'est un renégat, mais il va échapper à ses poursuivants lorsqu'il est à Damas, d'une manière assez rocambolesque. Imaginez-vous, Paul descendre dans une corbeille et sortir de la ville. On avait fermé tout. Tout était barricadé d'une manière ou d'une autre, c'était une véritable Jéricho, on peut dire, un bardé de fer. Et là, il y avait quelque chose, on avait donné les consignes à tous les gardes, à tous les soldats. Cet homme-là, il nous faut, parce que de toute façon, il ne sortira pas vivant de cette ville. Enfin, c'est ainsi que on prétendait les choses. Alors, les disciples, à ce moment-là, ont imaginé, c'est pas un miracle de descendre dans une corbeille. Je vous le dis, on faisait quand même un miracle qu'il s'en soit sorti. Mais toujours est-il qu'on a échafaudé cette idée un petit peu saugrenue de le mettre dans une corbeille, je ne sais pas comment on a fait, et puis on l'a fait descendre, et puis après il a pu partir sur Jérusalem, il a pu repartir. Mais le verset 26 est quand même assez intéressant, puisque si nous le reprenons encore une fois, il s'est rendu donc dans la capitale, Jérusalem, et là à ce moment-là il a essayé de se joindre avec tous ses nouveaux amis, c'est-à-dire les juifs convertis au christianisme. Mais il s'est passé une chose, parce qu'à son retour, il est revenu naturellement en catimini, comme à Damas, il ne pouvait pas faire grand-chose. Mais toujours est-il, il va tenter donc de rejoindre, en effet, les autres, mais il y a un problème. Et le problème ne vient pas de ceux qui sont sans foi ni loi, il va venir de ceux qui sont à l'intérieur. Parce que vous avez vu avec moi, tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors, je peux vous dire que ça va certainement défrayer la chronique. On nous dit que Saul de Tarse, maintenant, s'est converti à Jésus-Christ. Il est des nôtres. Et les gens devaient se dire les uns les autres, mais c'est pas possible. Avec tout le mal qu'il a fait, avec les mandats qu'il avait auprès des sacrificateurs à Damas pour mettre en prison les juifs, puis tous ceux qui croient à cette nouvelle doctrine, à cette nouvelle religion, alors, et même il apporte son suffrage pour les mettre à mort. C'était redoutable, une chose pareille. Tous le croyaient, le craignaient, car ils ne croyaient pas qu'il soit un disciple. Donc, nous y trouvons du doute, de la suspicion, une mise à l'écart et puis un rejet systématique, puisque chacun veut se protéger. Cependant, lorsque nous allons un peu plus loin, le Seigneur intervient comme il sait le faire, il intervient providentiellement au travers d'un homme. Un homme courageux d'entre les autres, excepté peut-être finalement ce que les autres craignaient, lui, il a été courageux. Et un homme qui fait davantage confiance à Dieu qu'à ce qu'il entend autour de lui. Et cet homme est un homme d'exception quand même. Et il deviendra un ami, un compagnon de Paul. Alors, il regarde autrement que les autres, aveuglés par leurs craintes et leurs préjugés. Et la manière de voir les choses, souvent, est embrumée, obscurcie par nos craintes et nos préjugés, où nous avons vraiment du mal à faire confiance. On est quelquefois très incrédule. Et c'est ce qui se passe pour Paul. Il y a une citation latine qui nous dit ceci, « Le préjugé est fâcheux parce qu'il exclut tout jugement ». On part dans une idée, et puis finalement, c'est notre idée, c'est la nôtre, c'est la vérité, il n'y a rien d'autre du tout. Et c'est vrai que, quelquefois, on peut se tromper grandement, lourdement, et faire beaucoup de mal avec les préjugés. Alors, c'est ce qui se passait là, quand ces nouveaux amis l'ont vu arriver, ils se sont dit, mais c'est pas possible, on peut pas se tenir dans la présence de cet homme, il est là au milieu de nous, c'est, excusez-moi l'expression, en termes d'espionnage, on appelle ça des taupes. Voilà pour regarder, et puis attention, après, c'est un traître, bien sûr, naturellement, un renégat. Alors, l'homme dont il est question, qui lui va faire confiance, on va en parler d'ici quelques instants, il va faire la démonstration du regard de la confiance. Le regard confiant de Barnabas, parce que c'est son nom. Et on pourrait dire que la foi est dans ses yeux. Elle est dans son cœur, mais elle est dans ses yeux. Il a un regard confiant. Dans le livre des Actes des Apôtres, toujours je cite, je prends simplement ce texte, qu'est-ce qu'il nous est dit de Barnabas ? Il nous est dit qu'au chapitre 11 et au verset 24, écoutez bien parce que c'est quand même un éloge, car c'était un homme de bien, en parlant de lui, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Moi je trouve ça très beau, que l'on puisse avoir ce compliment de la Bible, du Seigneur. Un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et à cause de lui, il nous est dit simplement, une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Alors si vous voulez gagner des âmes, si vous voulez être des Barnabas, si nous voulons être des hommes communicateurs de vie, de foi et d'espérance, eh bien il faut avoir un regard confiant. Parce que si nous avons un regard de suspicion, un regard de doute, alors à ce moment-là, ça ne peut pas marcher. Regardez Jésus quand il regarde. Il y a toujours quelque chose qui transparaît, qui communique, on ressent chez lui de la compassion. Alors les enfants de Dieu doivent changer dans ce domaine. Et le regard, il est dirigé par le cœur. Si le cœur est fermé, eh bien le regard sera fermé aussi. On prête beaucoup plus quelquefois de mauvaises intentions que de bonnes intentions. Je sais qu'il faut se méfier. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas dignes peut-être, auxquels on ne peut pas faire confiance. Mais il y en a d'autres, en tous les cas, nous dans notre démarche, elle doit d'abord dans un premier temps. Jésus nous le dit bien, et nous le rappelions hier aux jeunes dans la réunion, où Jésus nous dit « Soyez sages comme des colombes et prudents comme des serpents ». Voilà. Alors, on va essayer de tenir compte un peu de ce que Jésus nous dit. Homme plein d'Esprit Saint et de foi. Vous savez ce que veut dire le nom Barnabas ? Ça veut dire tout simplement « fils de consolation ». Et je trouve que c'est beau. « Fils d'exhortation » en traduction française et « fils de consolation ». Et vous savez que il le sera pour Saul, parce qu'il est le seul finalement à lui faire confiance. Tous les autres le regardent un petit peu avec un regard inquisiteur, et il sera pour son ami, Saul, qui va devenir Paul, qui lui est rejeté, il est honni. Voyons d'autres cas d'espèce. Je citerai Pierre et Corneille. Alors Pierre, on le connaît, c'est un personnage d'une carrure tout à fait remarquable, et puis Corneille. Et en tous les cas, Pierre, c'est une chose que l'on peut dire, c'est qu'il est il a de solides préjugés, lui. De solides préjugés religieux et culturels. Et quand on voit, par exemple, dans Actes chapitre 10 et au verset 14, il nous est bien parlé de cette histoire. Quand le Seigneur lui a parlé d'aller dans la maison de Corneille, en disant « Tu vas évangéliser, parce que moi, c'est un païen, mais c'est un païen qui craint Dieu. Et il a besoin d'entendre l'évangile, lui et toute sa maison. » Pierre lui dit, non, mais moi, juif, il n'est pas question de rentrer dans une maison d'un homme impur, puisque les païens, c'était des gens impurs. Alors, Dieu va lui montrer par trois fois une vision, enfin, toutes sortes de choses. Vous connaissez votre Bible, naturellement. Et à ce moment-là, au moment où Pierre a la vision, il y a une voix qui lui dit, mais lève-toi, Pierre, et tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'aurai jamais rien mangé. Je n'ai jamais rien mangé qui soit souillé d'impur. Et pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à lui ce que le Seigneur a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Ce que le Seigneur a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Seigneur, donne-moi d'avoir des yeux qui regardent comme toi tu regardes, des yeux qui ressemblent aux tiens. Un autre cas, toujours autour dans l'affaire de Paul, c'est l'histoire d'Ananias de Damas. Connaissez ? Parce que c'est un homme qui est bardé de crainte. Et là encore, dans le chapitre 9 et au verset 12, nous voyons que Dieu va lui parler, puisque Paul vient de tomber de son cheval, il est aveugle, il ne sait plus où du tout il en est rendu, et il est en train de questionner Jésus, et disant « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Alors que normalement c'était un juif par excellence, il aurait dû savoir qui était le Seigneur, mais il ne connaît pas Jésus. Donc on peut connaître Dieu sans connaître Jésus. Et pourtant la Bible nous dit que pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui, naturellement. Celui qui m'a vu a vu le Père. Enfin, on ne va pas multiplier les versets, ça vient comme ça. Mais toujours est-il que, à ce moment-là, nous avons cette histoire. un disciple à Damas, il y avait un disciple qui s'appelait Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, c'est à Damas, hein, et cherche dans la maison de Judas qui, un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints, à tes chrétiens, dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Donc Ananias, c'est un vrai chrétien. Dieu le mandate d'aller voir Saul de Tarse pour qu'il prie pour lui, pour qu'il recouvre la vue, qu'il devienne l'homme qui va être, c'est-à-dire le grand apôtre de l'Évangile. Mais Ananias, il dit, mais c'est pas possible. Si je vais le voir, il va me mettre en prison. Il me cherche. Alors si je vais à sa rencontre, ça sera pas trop difficile pour lui. Oui. Mais ce qui nous montre encore une fois de plus que nos appréhensions, nos préventions et oppositions sur les personnes réclament un effort pour regarder comme le Seigneur, lui, les voit. Et si Dieu a dit, cet homme ou cette femme, eh bien moi je le regarde comme pur, alors ne le regarde pas comme impur. Seigneur, donne-nous de voir comme tu vois. Donne-nous d'aimer comme tu aimes. Et ça, ça demande quand même un recyclage. Excusez-moi, je prends un terme d'actualité, mais nous avons besoin d'être recyclés. Ça ne veut pas dire que le faille finalement avoir un regard béat et accepter tout, tout est beau, non, c'est pas ça. Hein, ça ne veut pas dire cela. Mais une chose qui est certaine, c'est que on est beaucoup plus près du Seigneur pour avoir finalement la correspondance de ses sentiments, de son cœur. Et quand le Seigneur nous dit, bien voilà, c'est comme ça, alors moi, je dois peut-être changer d'avis. Et le sermon sur la montagne et les béatitudes vont encore beaucoup plus loin parce que le Seigneur nous demande d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Souvent, quand on n'est pas aimé, on rend l'appareil. Hein. Mais c'est ça la puissance de l'Évangile. Parce que si nous avons quelques adversaires ou quelques ennemis, eh bien c'est pas en leur faisant la guerre, c'est en les aimant. C'est comme ça qu'on a été sauvés, c'est parce que le Seigneur nous est mort sur la croix, non pas parce que nous étions aimables, mais parce que nous étions perdus et nous étions révoltés contre lui. Mais il est venu nous dire qu'il nous aimait, alors ça nous a fait fondre. Et on a dit, Seigneur, ça y est, on dépose les armes, on abdique et on te suit. C'est pas comme ça que ça s'est passé, non? On n'a pas l'air d'être convaincu. Ah, quand même! Le verset 27, dans notre texte, nous dit ceci. « Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui et le conduisit vers les apôtres, il leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, que le Seigneur lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement l'Évangile. Un nouveau converti qui a déjà il a déjà l'inspiration de la prédication, vous vous rendez compte, hein? Il est tout feu, tout flamme. Il est ardent. Il faut bien remarquer que c'est une prise de risque audacieuse de Barnabas et s'affirmer et finalement affirmer sur des faits probants qui font preuve de l'authenticité, de la réalité, de la réelle conversion de Paul. Il va dire, mais comment Saul a vu le Seigneur? Comment le Seigneur lui a parlé et prêché franchement l'Évangile? Donc nous nous apercevons qu'il fallait quand même beaucoup de foi, beaucoup de courage et une grande confiance, un regard de confiance pour Barnabas de faire ce qu'il a fait. La première conclusion, pourrait être celle-ci, c'est que le regard de Barnabas qui fait foi où tous les autres doutent, craignent et rejettent. Et quelquefois dans notre vie, nous n'avons pas forcément toute la foule et la majorité avec nous, hein. Un homme s'avance en disant « moi je fais confiance au Seigneur » alors que les autres peut-être tout autour disent « mais non, attention, c'est dangereux ». Mais ça c'est la foi. C'est pas de la témérité, Non, c'est de la foi. Et je crois que ça doit être la caractéristique de chacun d'entre nous. C'est vrai. D'être des hommes qui avançons, des femmes qui avançons. Là où les autres disent « mais attendez, Saul, Paul, il n'est pas converti, hein, faites attention ». Alors il y a tout un travail qui va se faire. C'est pas nous qui allons faire le travail, c'est le Saint-Esprit dans la personne. Parce que ça commence par la repentance. On sort état brut de notre misère et de notre situation. Ensuite, il y a la conversion dans le choix que nous faisons de dire, eh bien maintenant je suis Jésus. Et puis après, la nouvelle naissance, mais ça va se faire. On n'est pas deux jours après notre conversion, on n'est pas déjà des anges. Hein. Et il va y avoir du travail. Il va y en avoir des choses à prendre et à reprendre, à faire et à défaire, des allées et des retours, etc., etc. Mais le Seigneur nous fait confiance. Autrement, je ne serais pas là hein, aujourd'hui. Hein. Ça fait bientôt 40 ans que ça dure, mais le Seigneur me tient. Hein. Et j'ai peut-être encore plus besoin maintenant, après 40 ans, que quand je me suis converti, quand j'étais tout jeune. Hey, mais il est là, il me fait confiance. Moi, je veux lui faire confiance. Mais j'ai besoin aussi qu'il me fasse confiance, parce que c'est comme ça. On a parlé du regard de la confiance. On va parler maintenant du regard de l'amour, ou le regard aimant. Tout ça, ça s'imbrique un petit peu. Et on va prendre dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, un beau texte. Hein, et je pense que là aussi, hein, il y a matière à réfléchir. Hein. Et vous allez voir que c'est quand même assez particulier, puisque dans ce texte-là, Luc, chapitre 7, verset 36, hein, vous connaissez bien l'histoire. Alors c'est vrai que c'est une histoire qui a fait scandale. Hein. Mais bon. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans sa maison, ou la maison du pharisien, et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa, et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Ah, si cet homme était prophète !» Il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Et il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Alors maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus ? Lequel l'aimera le plus ? Vous avez compris ? Ce récit met en présence... un pharisien, monsieur le pharisien, Jésus, une prostituée, autour d'un repas. Enfin, Jésus était invité au repas du pharisien, mais la prostituée, non. Ça fait quand même son effet, hein. Quand on regarde un petit peu le contexte. Hein. Autour d'un repas, il y a naturellement cette femme qui fait irruption là, dans l'assistance. Elle vient avec, à la main, elle vient avec un vase plein de parfums. Un vase avec un art de grand prix. Et elle a une attitude pour le moins surprenante, voire même provocante. C'est que ce qu'elle a dans son vase, elle va le mettre. Elle va le déposer sur Jésus. Et là, il y a quelque chose qui va changer les donnes. Elle va pleurer. Des larmes sincères vont couler de ses yeux. Et il va y avoir aussi, d'un autre côté, une réaction de protestation du pharisien, de Simon, et une leçon sur les jugements hâtifs, sur les jugements précipités et aveugles. Je dis bien, on est dans le paragraphe du regard aimant et du regard d'amour. Souvenons-nous de ce que nous avons dit tout à l'heure. Et Pierre entend la voix dans le ciel, et lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Alors là, on peut se poser des questions par rapport à cette femme qui arrive. Oui. Mais encore sur les regards hâtifs et précipités. Vous savez ce que nous dit la Bible dans 1 Samuel. Et je lis simplement le passage, vous allez vous en souvenir. C'est Dieu qui envoie le prophète Samuel pour oindre David. Hein, vous avez deviné. Alors, il y a Samuel qui arrive dans la maison d'Isaïe, parce qu'on cherche un roi pour Israël. Alors, il est rentré et il a vu Eliab. Eliab, c'était le fils aîné d'Ésaïe, hein, un beau garçon, hein, très grand, très beau, tout ce qu'il faut. Hein, Oh, c'est pas possible, ça peut être que le roi, ça, parce que quand on a quelqu'un de grand, ça peut être qu'un président de la République ou un roi. Je vais peut-être me présenter bien. Alors, Samuel, qui est pourtant un homme avisé, hein, il dit, mais certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et Dieu dit à Samuel, ne prend pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors il y en a eu un, il y a eu le second, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Tu n'as que ses fils ? Oh oui, mais il y a le petit là. Hein, il est parti garder les brebis dans les champs, oh, c'est même pas la peine de le faire venir. Samuel dit, mais je voudrais quand même le voir. Alors il est venu, le petit David. Et Dieu lui a dit à ce moment-là, c'est celui-là. Dieu regarde au cœur et pas à l'apparence. Ici, il y a trois regards à analyser dans notre texte, brièvement. Le premier, c'est celui du pharisien de Simon. C'est un regard qui correspond à son état de cœur et à son état d'esprit, parce que finalement, ce que nous sommes à l'extérieur, c'est parce qu'il y a le correspondant à l'intérieur. Même s'il ne dit rien, notre brave Simon, même s'il est chez lui, il est le maître de maison, même s'il ne dit rien, sa pensée est criante et elle le trahit. Et que pense-t-il ? Eh bien, il pense ce que nous avons vu il y a un instant, c'est que, je retrouve ma page parce que j'envoie mes petits papiers et puis après je ne sais plus où je les mets. Donc c'était au chapitre 7, pardon, je vais retrouver ça tout de suite. Voilà. Donc voilà, au verset 39, il est dit ceci, et il se parle à lui-même. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, voyant la femme et puis le comportement, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui ?» Puis alors, c'est pas très gentil, hein, « De quelle espèce ?» Et la femme qui le touche, et il saurait que c'est une pécheresse. Ben oui. Donc, notre Simon va éprouver un grand déplaisir de voir à la fois cette femme rentrer dans sa maison, parce qu'aucune prostituée n'était rentrée dans sa maison. Et là, c'est Jésus qui vient et il l'attire en plus. Ça, c'est quand même bouleversant. Alors, il va éprouver vraiment une forme de déplaisir et même de dégoût. Et il dit, mais une telle créature, chez moi, mais c'est inadmissible. Alors, il est choqué, parce que simplement Jésus se laisse faire, et déduction immédiate sous forme de condamnation, il dit, il déclare en lui-même, personne ne l'a entendu, il y a Jésus qui a compris ses pensées, si cet homme était prophète, il saurait. Donc, j'en fais la déduction que Jésus n'est pas prophète. Et s'il n'est pas prophète, il n'est pas le Messie. Il n'est pas celui qui doit venir. Donc, c'est un faux. Jésus est faux. Jésus est un imposteur. Regardez, avec une prostituée. Bon, on n'a pas besoin d'autres preuves, hein. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Simon pense que lui sait mieux que tout le monde. S'il savait en pensant de Jésus, sous-entendu s'il savait comme moi, alors à ce moment-là, il ne se laisserait pas toucher par cette femme. Il a du dédain, Simon. Ça, c'est le premier regard. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'aime pas. Alors là, il y a une pertinente réponse qui arrive aussitôt. Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire, et tout content. » Enfin, je ne sais pas s'il était tout content, c'est moi qui le dis, mais « Maître parle. » Ah oui, il a gardé quand même les convenances, hein. Il n'était pas content que ça se passe comme ça chez lui, mais néanmoins, il garde quand même encore la politesse. « Maître parle. » Et puis Jésus va lui raconter une des plus petites paraboles de la Bible. Il va dire, « Mais un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers, l'autre 50. Alors comme il n'avait pas de quoi payer, eh bien, il leur a remis tous les deux la dette. Comme ça, c'est le meilleur moyen, tout le monde est content et tout le monde est satisfait. Mais avec cette question, « Dis-moi, Simon, lequel l'aimera le plus ?» Et Simon va répondre, hein, il va dire, mais oui, ben, je pense que c'est celui à qui on a remis le plus. Eh bien, tu as raison de dire ça, parce que moi, je veux dire la suite. Tu as raison de dire que celui qui sera le plus heureux, c'est celui à qui, celui à qui on a remis la dette. L'amour qu'il y a dans les yeux traduit l'état du cœur, on l'a vu tout à l'heure. L'amour fait davantage que ce que nous imaginons savoir et ce qu'on ne sait pas. Or, ce que Simon ne voit pas et ne peut donc pas comprendre, il ne peut pas le comprendre, c'est ceci. C'est le verset 47. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle a beaucoup aimé. Ça fait partie de la sagesse qui n'appartient pas à la sagesse des hommes. Ça vient d'en haut. Jésus va lui dire, mais je te dis que finalement, ce qu'elle a fait, sa présence. Eh bien, ses nombreux péchés ont été pardonnés, qu'elle a beaucoup aimé, parce que c'est vrai qu'elle avait un compte. Un compte, pas possible. Elle croulait sous les dettes, la pauvre femme, avec sa vie, avec tout ce qu'elle a connu. Et encore fallait-il savoir qu'est-ce qui l'avait amené à la prostitution. Hein. Vous savez qu'il ne faut pas juger trop vite. Hein. Parce que quand on connaît l'enfance, quand on connaît toutes les violences et tout cela, quelquefois on se dit, ah, il y a des gens qui tournent mal, mais pourquoi ils tournent mal? Alors il faut peut-être réfléchir un petit peu. Il faut aller au-delà d'un regard hâtif, parce que vous savez, aujourd'hui on ne serait pas là, hein, si Seigneur n'avait pas eu compassion de nous. Hein. Mais celui à qui on pardonne aime peu. Et il a dit à la femme, tes péchés sont pardonnés maintenant. Alors on comprend déjà les choses d'une autre manière, naturellement. Moi je crois que c'est le regard, et ça c'est le regard de Jésus, c'est le regard de l'amour qui croit le tout possible en Dieu. Et c'est aussi le regard de cette femme. Quand elle est venue, elle a cru que Jésus pouvait l'aimer malgré ce qu'elle était. Et le Seigneur nous aime malgré ce que l'on est. Et malgré ce que l'on est encore, parce que quand même, hein, bon, on appartient au Seigneur, mais ça nous arrive aussi hein, quelquefois de marcher à côté du chemin. Alors, de croire, et ça c'est le regard de l'amour. Et il a trouvé chez Jésus un regard qui lui disait, ben maintenant, hein, ça y est, t'es absoute de tes péchés, maintenant tu changes de vie, tu fais autre chose. Ça, c'est une nouvelle aventure pour toi, une aventure de foi, une aventure d'amour. Hein. Alors, je crois que là, c'est important que nous le soulignions. Et le tout possible en Dieu, le tout possible de Dieu, c'est sa grâce, c'est sa miséricorde, c'est son salut, et c'est surtout son pardon. Vous savez que c'est quelque chose de formidable quand on se sent pardonné. Parce que là, il y a un poids qui disparaît. Et on est léger. Ouais, vraiment léger. Libre. Elle a beaucoup aimé. C'est pourquoi, eh bien, elle a fait tout cela, parce qu'elle a cru. Parce qu'elle pleurait des larmes de la repentance, aspirant à une vie nouvelle et à une conscience purifiée. C'est ça le secret de cette femme. Elle se dit, c'est pas possible que je reste dans mon état. Je suis malheureuse, je me donne, je me vends, mais j'ai du dégoût. Et je ne peux plus vivre comme ça. Qui pourra me délivrer? Et elle était prisonnière, elle était captive de tout cela. Mais elle a rencontré Jésus, et Jésus lui a dit, maintenant, ton problème, il est réglé. Mais elle a eu un regard d'amour vers Jésus. Pas de l'amour qu'elle prétendait, mais il y a eu la réponse. Et Jésus lui a dit, mais maintenant, tu es pardonné. C'est fini pour toi. Le pharisien regarde pour juger, la malheureuse regarde Jésus pour espérer être aimée, encore être aimée et être pardonnée. Et le regard de Jésus, c'est celui de l'amour qui fait fondre toutes les résistances, toutes les excuses que nous nous donnons à nous-mêmes dans certaines choses, nos craintes, nos doutes et notre misère. C'est ce savoir aimer malgré, trois petits points, malgré. Il y en a un homme qui a pleuré aussi. Il s'appelle Pierre. Vous savez ce qu'il nous en est dit? Oui, c'est intéressant parce que Pierre pleurait. Et quand on connaît la stature du personnage, hein, c'était certainement pas chez lui qu'on aurait pu trouver des larmes et des pleurs. Ah oui, mais il a pleuré quand même, hein, notre Pierre. Hein, dans Luc chapitre 22, qu'est-ce qu'il nous est dit à un moment donné, alors qu'il avait dit à Jésus, tu sais, je te promets. Hein, ah, s'il y en a un qui sera le dernier avec toi, tu peux compter sur moi, je serai là. Et Jésus lui dit, tu connais le petit oiseau là, qui chante, le coq. Ah ouais. Ah, Jésus était prêt à faire toutes les promesses qu'il voulait, mais... Enfin, Pierre, pardon, excusez-moi, toutes les promesses, mais c'est pas de faire des promesses. Ce qui est important, c'est de savoir la force que nous avons dans l'âme. Hein. Alors au verset 61, il nous est dit que là, après que Jésus l'ait prévenu, hein, il nous est simplement... Pierre a répondu à ceux qui l'accusaient, mais je ne sais pas qui est cet homme en parlant de Jésus. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chantait, ou chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre, un regard. Regarda Pierre, mais un regard qui l'a complètement percuté à l'intérieur de lui-même. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Et le verset 62, « étant sorti, il pleura amèrement. » C'était pas des regrets, c'était pas du remords, c'était de la repentance. Il a pleuré sincèrement. Et c'est comme ça que Pierre a pu rebondir et devenir l'apôtre. Alors que Judas, lui, s'est amorti, s'est pendu. Regard ! Et Jésus a eu un regard pour dire, mais je te rejette pas. Je te mets pas dehors. Ton cœur est sincère, tu souffres, Et puis on va terminer sur le regard qui espère. Le regard de l'espérance. Le regard espérant. Alors pour cela, on va aller dans Actes chapitre 15. Il y en a des choses à dire dans la Bible. Hein. Verset 37. Vous allez voir, c'est assez intéressant celui-ci aussi. Alors, le regard qui espère, Actes chapitre 15, verset 37. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Ils repartent en mission. Barnabas voulait emmener voulait aussi emmener Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères et la grâce du Seigneur. En d'autres termes, c'est donner sa chance à quelqu'un, même après une faute. Ouh là là, terrible ce que je suis en train de dire. Hein. Après une erreur ou quelque difficulté surgit d'une nature ou humaine, c'est donner sa chance. Les apôtres sont en mission, ils repartent en mission. On les connaît, celui dont nous avons parlé, c'est-à-dire Saul, qui est devenu Paul, et Barnabas, ils font équipe, et ils sont accompagnés d'un jeune pasteur, un jeune serviteur de Dieu qui est tout frais moulu, enfin, ou en formation, il s'appelle Marc. Celui-ci, probablement, d'après l'histoire, la chronologie, les chroniques, celui-ci, probablement, devant les exigences de l'œuvre, abandonne ses accompagnateurs. Il a peur, il a des craintes. Il ressemble un petit peu, il a un petit peu la figure de Timothée, vous savez. Dieu t'a donné un esprit de force et de hardiesse. Mais lui, il n'est pas tout à fait rassuré, hein, notre Marc. Et une contestation vive, à tel point qu'il est parlé du mot de dissentiment, ce qui veut dire ce qu'il veut dire, va opposer Paul et Barnabas, une contestation relative à la défaillance de Marc. Parce qu'ils avaient été contents d'avoir ce jeune homme avec eux. Hein, il était en formation, il allait devenir lui aussi un apôtre, un pasteur. Et puis là, à un moment donné, Marc, il dit, moi je rentre chez moi, hein, je vais voir maman. Ben oui, c'est comme ça. Hein. Alors, c'est la séparation. Les deux hommes vont se fâcher, en quelque sorte. Et d'un côté, il y a la fermeté de Paul, hein, qui est plein de rigueur. Oh, il aurait dû être plus miséricordieux, Paul, dans cette affaire. Parce que si il s'était souvenu comment il était descendu de la corbeille, et comment... Mais on oublie quelquefois les bonnes choses. Hein. Il s'était souvenu qu'il avait un compagnon qui s'appelait Fils de Consolation. Heureusement qu'il a eu la consolation, parce qu'il n'aurait pas été... Vous comprenez, quelquefois, on vous fait du bien, puis on l'oublie. Hein. Hein, si on vous fait miséricorde, soyez miséricordieux. Hein. Surtout, ne l'oubliez pas, parce que là, c'est quand même... Alors, il y a d'un côté, naturellement, il y a Paul... qui est ferme, et puis il y a de l'autre la bienveillance, et je dirais une bienveillance éclairée de Barnabas. Parce qu'on se souvient que le mot Barnabas, ça veut dire fils de consolation. Et moi je crois qu'il y a dans l'Église, il y a des personnages comme ça. Ah, ils font peut-être pas de bruit, ils sont des Barnabas, des fils de consolation. Et quand quelqu'un pleure, quand quelqu'un... Eux, ils ont le regard pour voir ce qui ne va pas chez les autres. Et ils viennent leur donner des paroles. Pas un débit de versets bibliques, théologie ou théorie, etc. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais ils savent donner les mots qui réconfortent et qui encouragent. Vous ne trouvez pas que c'est important? Bénis soient les Barnabas au milieu de nous. Hein. Il faut des Paul, hein, mais il faut aussi des Barnabas. Alors, fils de consolation. Au verset 39, puisque nous l'avons vu il y a donc un instant, il nous est dit que dans ce verset-là, ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Alors Barnabas est parti d'un côté avec Marc et il est parti pour l'île de Chypre. Dans le désaccord total, chacun va suivre son chemin. Et je voudrais quand même donc remarquer que quelque part, en effet, Paul, encore une fois, il aurait pu se souvenir qu'on avait été bienveillant avec lui. Le regard de Barnabas sur Marc nous dit ceci. C'est un regard confiant dans un avenir pourtant décevant et peu prometteur. quelqu'un qui rentre dans l'œuvre de Dieu et qui sort aussitôt, on se dit, mais il ne va pas aller loin. Hein. Moi, j'aurais peut-être la première réaction. J'ai peur de monter sur l'estrade, j'ai peur de prêcher, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Ben, on a eu peur, hein. Et j'ai quelquefois encore peur. Mais il ne faut pas lâcher le bateau, hein. On est là, on est capitaine en quelque sorte. Hein. Parce que si le pasteur s'en va, alors qu'est-ce que vont faire les autres ? Ouais. Mais ça fait partie des choses où Dieu est pour vous, hein, naturellement. Alors, lui, il a un regard aimant. Pour quelqu'un qui craint, qui est mal assuré, qui est mal peut-être dans sa peau, qui est mal dans ses convictions. On peut dire que Marc est boitillant, mais avant qu'il marche droit, eh ben, il va falloir qu'il apprenne des choses, naturellement. Mais il faut qu'il soit accompagné avec des gens bienveillants, pas des gens qui lui disent « qu'est-ce que tu es capable de faire ? Tu es capable de rien, alors tu rentres chez toi. » Un regard qui espère un raffermissement, un redressement, un ressaisissement. Et il faut contribuer à faire en sorte que les gens puissent se trouver en confiance, et pas démolis. En fait, l'attitude de Barnabas qui le motive à ne pas abandonner Marc, en d'autres termes un langage moderne, à ne pas le laisser tomber, c'est qu'il regarde avec les yeux de la foi lui aussi, non les yeux du jugement. Comme Dieu voit l'avenir de chacun, et je dis bien, Dieu a vu Marc dans ses craintes, dans ses appréhensions, mais Dieu avait vu aussi l'avenir de Marc. Ça vous dit quelque chose, Marc ? On va voir ce qu'il est devenu. Vous allez voir, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que ça vient confirmer une vieille prophétie de la Bible, dont nous avons besoin véritablement de prendre toute la mesure, parce que dans Zacharie au chapitre 4 et au verset 10, il est dit ceci, en ce qui concerne Zorobabel, en ce qui concerne les débuts des choses, « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. » Eh oui, parce que c'est Dieu qui prend, qui fait commencer et qui nous fait aboutir. Si on attend de quelqu'un, finalement, eh bien, qu'il soit déjà parfait avant d'avoir commencé, à ce moment-là, ça ne pourra pas marcher. Et Barnabas a le regard de l'avenir pour Marc, tout simplement, heureusement. Et heureusement que quelqu'un a fait confiance à Marc, parce que qu'est-il devenu, Marc, dans le plan de Dieu ? Vous avez une petite idée ? En deux mots, avant de finir. Marc veut dire « celui qui brille ». Quand on est quand même serviteur de Dieu, on doit pouvoir quand même avoir un reflet. Hein. Si on est terne, si on est éteint, ça ne va pas inciter les gens, hein, puisque Jésus nous a dit « vous êtes la lumière ». Celui qui brille, et puis il y a encore une autre, celui qui est luisant. C'est-à-dire que c'est la petite lumière qui est au bout du tunnel et qui laisse encore de l'espérance. Voilà, celui qui luit. Et beaucoup plus tard, nous lisons son histoire, digne de ceux qui font confiance à l'amour de Dieu. Tout d'abord, il y a eu une magnifique réconciliation. Après des années de dissension, c'est le résultat du miracle dans les cœurs. Si nous lisons Timothée au chapitre 2 et au verset 4, eh bien nous apprenons une chose, c'est que au verset 4 et au verset 11, il est dit ceci, parce que Paul se trouve dans une situation de grande difficulté, et il dira, Luc seul est avec moi. Il est désespéré, Paul, à ce moment-là. Il est certainement déjà à un âge avancé. Et il dira à un moment donné, lui qui n'avait pas voulu prendre Marc, il dira, prends Marc et amène-le avec moi, car il m'est utile pour le ministère. Moi, je dis que ça, c'est quelque chose de formidable. Je ne sais pas si vous avez saisi la subtilité, mais c'est quelque chose de formidable. C'est Paul qui lui avait dit, tu vas où tu veux. Et puis après, Paul, plus tard, se souvient que Marc était utile pour le grand apôtre. Réconciliation. Voilà, merci Seigneur, hein, de ce que Dieu est capable de changer les cœurs les plus endurcis, les plus fermés, où le regard eh bien, est un regard parfois qui est un regard de condamnation et de jugement. C'est un petit peu comme ça que Paul a eu. Mais heureusement qu'il y avait un Barnabas dans l'affaire. Hein. Ça, c'est vrai. Et ensuite, selon Pierre, au chapitre 5, et je finis, au chapitre 5 et au verset 13, il est dit ceci, c'est Pierre qui écrit cela, « L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc mon fils. » Et là, vous allez comprendre pourquoi. Il l'appelle mon fils. Parce que Marc avait un père spirituel qui n'était pas Paul, qui n'était pas Barnabas, mais qui était Pierre. Et vous allez voir qu'il est devenu, Marc est devenu l'écrivain inspiré du deuxième évangile. Autrement, on l'aurait laissé tomber, vous auriez trois évangiles, vous n'en auriez pas quatre. Eh bien, merci Seigneur. Merci parce que tu as un regard qui nous fait confiance. Et si vous avez étudié l'évangile de Marc, c'est exactement l'évangile que Pierre n'a pas écrit. C'est l'évangile de Pierre, de Simon-Pierre. Tout simplement, sous la plume de Marc. Conclusion. Regard de confiance. Regard confiant. Regard qui aime. Regard aimant. Regard qui espère. Regard espérant. Et la conclusion, nous l'avons à travers Jacques quand il écrit ceci, au chapitre 3, verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Et vous savez comment nous sommes appelés dans les béatitudes? Tous ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Donne-nous d'avoir les regards qui sont les tiens, Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. On garde ça dans notre cœur. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que, en effet, Père éternel, nos yeux, c'est notre cœur. Un cœur qui est fermé, un cœur qui est sec, c'est un cœur qui ne peut pas regarder. En tous les cas, il regardera, mais il regardera mal. Il regardera pour leur mal. Il regardera ce qui est mal. Il regardera ce qui est négatif, ce qui est faux. Mais celui qui est véritablement est animé d'un grand amour dans son cœur, alors verra le bien. Il sera bienveillant, puisque tu nous l'as rappelé, que celui qui a un regard bienveillant sera béni. Alors nous voulons te rendre grâce et te remercier. Bénis-nous, bénis ton peuple, bénis ton Église. Fais-nous grandir dans ce domaine, Seigneur. Oui, parce que le plus grand miracle, c'est pas de faire marcher les paralytiques, d'ouvrir les yeux des aveugles. Le plus grand miracle, c'est quand les yeux, aveugles des cœurs, s'ouvrent. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen.